VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Les deux chambres du Congrès américain ont finalement approuvé un accord budgétaire sur le financement de l'État fédéral. Ces efforts de dernière minute vont permettre de clôturer le shutdown, la fermeture partielle de l'administration, aussitôt que le président Donald Trump aura signé la mesure. On revient de loin, Anne Alberson.
Au terme d'une journée à rebondissement, les sénateurs ont dû convoquer une session de rattrapage après avoir passé leur limite de minuit, à partir de laquelle le gouvernement ne disposait plus des crédits pour fonctionner. L'administration Trump avait vécu sa première paralysie le 20 janvier, déjà faute d'accord sur le budget. Elle avait duré 3 jours. Le scrutin a été bloqué pendant plusieurs heures par Rand Paul, un républicain qui s'opposait notamment au relèvement du plafond de la dette américaine. La présidence du Sénat a dû suspendre la séance à minuit, heure locale, 5h, temps universel, pour en ouvrir une nouvelle une minute plus tard et convoquer un vote. Celui-ci s'est conclu par une large approbation, 71 voix contre 28.
Et la Chambre des représentants, la Chambre basse donc du Parlement américain, a adopté la loi budgétaire qui va mettre fin au shutdown fédéral. Aussitôt que, je l'ai dit, le président Donald Trump aura signé la mesure. Les plus hauts responsables du parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, ANC, ont annulé tous leurs engagements publics ce vendredi, en pleine tractation autour d'un départ anticipé du président Jacob Zuma. Le chef de l'État sud-africain, empêtré dans des affaires de corruption, a jusqu'à présent obstinément refusé de rendre les rênes du pouvoir, en dépit des injonctions de la direction de son parti. Cette décision a été prise en raison d'autres engagements nécessitant la présence donc des responsables sud-africains, a expliqué l'ANC sans plus de détails. Le président Zuma et le nouveau patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, ont engagé cette semaine des discussions directes pour négocier la transition. L'issue de ces pourparlers est imminente, avait assuré hier soir l'ANC. En Guinée, de nouvelles violences sont signalées à Conakry, la capitale, avec plusieurs blessés à quelques heures de la publication des résultats de l'élection locale du 4 février dernier. Le ministre guinéen de la Justice et celui de la Sécurité appellent au calme et promettent de mettre fin aux troubles dans le pays. De son côté, la Commission électorale nationale indépendante dit n'avoir reçu que quelques procès-verbaux dont elle va proclamer les résultats ce vendredi. À Conakry, retrouvons notre correspondant Zakaria Kamara.
Il s'agit des résultats partiels issus de 170 procès-verbaux sur les 342 concernés. Cette annonce du président de la CENI est très attendue. Elle arrive dans un climat de violence politique sur fond de contestation des résultats. 12 personnes ont été blessées jeudi dans les heurts entre militants de bords politiques opposés autour du domicile du chef de file de l'opposition guinéenne. Une violence de plus, mais une violence de trop, s'inquiètent plusieurs organisations de la société civile guinéenne. En visite à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a exhorté les leaders des partis politiques et leurs sympathisants à privilégier la manière pacifique et les voies légales pour résoudre tout différend lié au processus électoral. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son homologue de la Justice ont averti contre de nouvelles violences. Le premier a promis de protéger les populations. Tout auteur de violence post-électorale sera traduit devant la loi, menace à son tour le garde des Sceaux. Conakry, Zakaria Kamara, VOA Afrique.
Les relations diplomatiques restent tendues entre la RDC et la Belgique après la décision de Bruxelles de suspendre unilatéralement la coopération entre les deux pays. Kinshasa a riposté en fermant notamment la maison Schengen dans la capitale congolaise et en réduisant le nombre de fréquences allouées à Bruxelles Airlines. Mais cette décision, bien que pleinement assumée par le gouvernement congolais, ne fait pas que des heureux dans la population, nous dit dans ce reportage Thierry Kamoudi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Nous avons pris cette décision par rapport au comportement de nos amis belges qui ne comprennent pas que la RDC est un pays souverain. Et si d'aventure nos amis continuent, je crois que on va passer à la vitesse supérieure. Nous sommes membres de la communauté internationale, comme la Belgique. Donc, il faut que ça soit une politique gagnant-gagnant. Pour l'instant, je ne vois pas pas ce que la RDC peut perdre, mais nous voulons une politique de respect et de considération.
C'est en ces termes prononcés par Freddy Kita, le vice-ministre à la coopération internationale et sur un ton ferme, que le gouvernement de la République démocratique du Congo a justifié ses dernières décisions dans le conflit l'opposant à la Belgique. Kinshasa dit n'avoir appliqué que le principe de réciprocité dans l'exploitation des services aériens internationaux entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Fermeture de la maison Schengen à Kinshasa, réduction de 7 à 4 du nombre de fréquences hebdomadaires allouées à la compagnie aérienne Brussels Airlines. Le gouvernement congolais assume pleinement ces nouvelles mesures contre Bruxelles.
Vous savez que l'espace Schengen a été créé, je crois, en 1999. La maison Schengen ici à Kinshasa, qui est l'unique d'ailleurs en Afrique centrale, a été créée en octobre 2010. Avant la création de la maison Schengen, les Congolais partaient dans les ambassades pour faire leur demande de visa. Je crois que c'est la politique qui va répondre. Les visas continueront à être délivrés, mais cette fois-ci dans les ambassades.
Cependant, la décision de Kinshasa qui reproche à Bruxelles d'avoir rompu unilatéralement la coopération Belgique-République démocratique du Congo n'est pas du goût de tout le monde. Surtout pas de ceux que nous avons croisés devant la maison Schengen et dont les dossiers étaient en cours de traitement.
On avait introduit un dossier pour participer à une conférence à Rome. Je suis conférencier international et ambassadeur universel de la paix. Et là, j'étais venu pour récupérer le passeport pour le reste de la délégation qui n'avait pas fait les déplacements pour Rome pour participer à cette conférence. Soudain, nous avons vu une information qu'ils vont nous contacter d'ici les 31 janvier. Mais nous sommes au mois de février, nous n'avons pas toujours de suite. Il faudrait que nous puissions traverser au Congo-Brazzaville pour solliciter un visa, c'est encore plus de dépenses. Vous voyez que nous, les Congolais aussi, nous sommes très très pénalisés par cette mesure.
Déçu et dérangé également, M. Mike Kazadi, propriétaire d'une agence de voyage qui collaborait étroitement avec la maison Schengen. Son business en a pris un sérieux coup.
Vu que la maison Schengen est fermée et que nous, nous travaillons qu'avec la maison Schengen, nous sommes aussi préjudiciés. Il n'y a pas d'activité, nous sommes bloqués tout en attendant que la situation s'améliore. Ma proposition est que notre gouvernement puisse voir comment ils peuvent négocier avec les autres. On est préjudicié. Notre service consulaire est fermé en Anvers. Si cela continue ainsi, nous serons maintenant obligés de fermer partout parce que la maison Schengen renferme, regorge en soi 19 pays. Ils sont solidaires.
Ce débat sur la rupture des relations diplomatiques entre Kinshasa et Bruxelles s'est invité également dans de nombreux salons politiques. En vacances parlementaires, certains députés interrogés par votre radio ont promis de traiter en priorité cette affaire à la session de mars prochain. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et l'armée égyptienne a lancé aujourd'hui une opération antiterroriste dans plusieurs régions du pays, dont la péninsule du Sinaï, où sont très actifs des groupes djihadistes. Baptisée Sinaï 2018, l'opération a lieu dans le Sinaï, plusieurs régions du delta du Nil. Et dans le désert occidental, l'opération vise à renforcer le contrôle des zones frontalières et réaliser les objectifs planifiés pour nettoyer les zones où se trouvent des foyers terroristes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a déclaré jeudi être prêt à reprendre le dialogue avec l'opposition si elle signe le document issu des négociations inter-vénézuéliennes de Saint-Domingue, suspendu sine die mercredi. C'est pour parler en République dominicaine entre le gouvernement et l'opposition qui durait depuis 2 mois, portait notamment sur la date de la prochaine élection présidentielle et sur ses modalités. La délégation de la table de l'unité démocratique, coalition de l'opposition, a refusé de signer le projet d'accord, estimant qu'il n'apportait pas de garantie pour un déroulement équitable du scrutin présidentiel. En revanche, M. Maduro a paraphé le document mercredi lors d'un rassemblement de ses partisans à Caracas. Et puis le président hondurien Juan Orlando Hernandez a déclaré jeudi, après avoir rencontré une mission de l'ONU, qu'il était prêt à discuter avec l'opposition de la crise déclenchée par sa récente réélection. Nous sommes prêts et nous espérons que les tables de négociation seront bientôt installées, a dit M. Hernandez à la suite de sa réunion avec 3 émissaires du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, venu étudier la possibilité d'établir un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. La crise politique polémique hondurienne a éclaté lorsque le tribunal suprême électoral a déclaré M. Hernandez vainqueur de l'élection présidentielle du 26 novembre dernier. Jean-Roger Billon à ce micro, prochain journal dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.